De Matthieu au chapitre 3, les versets 1 au verset 12, et nous prenons ce récit qui nous parle à quelque part, qui nous amène à l'origine des choses, le début de cet acte qui est le baptême. Et nous allons ensemble ce matin plonger nos regards dans la parole de Dieu pour bien comprendre ce qui va se passer après par la suite. Est-il encore aujourd'hui nécessaire de prendre le baptême, l'engagement avec Dieu? Bien évidemment, oui. Et la parole de Dieu nous dit que c'est l'engagement d'une bonne conscience. Ce n'est pas simplement un acte religieux, loin de là. Pour certains, c'est tout simplement un moyen de répondre aux exigences religieuses. La parole de Dieu nous enseigne que le baptême, c'est un acte de foi, c'est un acte d'engagement. Et nous allons lire ensemble dans la parole de Dieu ce que la parole elle-même nous enseigne. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est lui dont le prophète Ésaïe dit, « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et n'imaginez pas pouvoir dire « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cogne est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Il a son vin à la main. Il nettoiera son air, il amassera son blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Amen. » Dans ce texte, il est question de ce message que Jean-Baptiste va prêcher et c'est le suivant. « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Dans juste un mot d'histoire, le baptême était chez les Juifs un symbole de purification et de consécration. C'était quelque chose de particulier, d'important, et avec Jean-Baptiste, il y a ce signe de la repentance pour la remission des péchés. En effet, Jean-Baptiste, il vient annoncer celui qui doit venir, le Messie, Jésus. Et dans cette attente, il prépare les cœurs, il amène les cœurs finalement à réfléchir à l'état de leur cœur pour qu'ils ne puissent finalement pas rester dans leurs conditions de péché, mais qu'ils puissent accueillir le Messie, le Seigneur, comme un sauveur. Et c'est pas juste de dire « on a un sauveur », c'est de dire « c'est mon sauveur ». Beaucoup parlent de Dieu comme leur Dieu, mais finalement, qu'est-ce qu'ils connaissent de Dieu et comment ils vivent leur relation avec Dieu? Jean-Baptiste baptisait ceux qui reconnaissaient leurs péchés et finalement déclarait que dans la venue du Messie, ils auraient finalement reçu le pardon. Jésus viendra. Et lui-même, pour justement symboliser l'importance du baptême d'une personne qui est consciente de l'engagement qu'il prend, il se fera baptiser à 30 ans. Non pas en tant qu'enfant, parce que la Bible nulle part nous parle du baptême de l'enfant, mais la parole de Dieu nous parle de cet acte que Jésus fera et que Jean-Baptiste lui-même dira « Mais Seigneur, c'est pas toi qui dois être baptisé, c'est moi ». Jean-Baptiste reconnaît en Jésus celui qui est parfait, celui qui n'a pas de péché à se faire pardonner. Mais Jésus lui dira « Laisse, il faut accomplir la volonté du Père ». Jésus est l'exemple parfait à suivre. Si nous avons quelqu'un vers qui nous pouvons tendre les regards en étant sûr de ne pas se tromper, c'est vers Jésus. Parce que pour tout le reste, on reste des hommes avec des failles, avec des défauts, avec plein de problèmes. Je parle pour moi. Bien évidemment, chacun de nous, nous savons quels sont nos points forts et nos points faibles, n'est-ce pas? Alors Jésus impliquera aussi ses disciples dans le fait de baptiser Et il leur dira de continuer à baptiser, à l'effet de toutes les nations, des disciples, en les baptisant. Alors le mot baptiser veut dire immerger, submerger. Parce qu'on peut immerger un corps sans forcément le submerger. Il est question finalement que l'eau couvre le corps tout entier. Symbole de la mort à l'ancienne vie, pour en être une nouvelle vie en Jésus-Christ, lui qui s'est donné à la croix pour nous. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, il est écrit en effet « La tristesse selon Dieu produit une repentance ». Ce mot, il est particulier. Parce qu'en effet, c'est celui qui nous mène à reconnaître nos erreurs, nos fautes. La repentance, c'est de dire « Je me suis trompé ». C'est dur à dire. On n'aime pas dire ça. On n'aime pas de reconnaître nos erreurs. Et pourtant, c'est le chemin à prendre. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. En effet, celui qui se cache de ses fautes, celui qui ne reconnaît pas ses erreurs, en effet, c'est lui-même qui se condamne. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 38, Pierre dira « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. » Un engagement de cœur, un engagement de vie. Alors, certes, quand on regarde à Jean, on regarde à Jean-Baptiste, on se dit c'est quand même un étrange prédicateur. Le texte nous dit qu'il était habillé d'habits très simples, un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir, et se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. En réalité, Jean, il avait compris l'essentiel. Aujourd'hui, si quelqu'un croisait Jean, il lui dirait « Tu n'as pas réussi dans ta vie. » Mais vous savez, la réussite selon le monde, finalement, est une perte devant Dieu. Alors, ce n'est pas que Dieu est contraire au fait que nous puissions réussir dans nos études, dans notre travail, dans notre vie. Non, pas du tout. Mais ce n'est pas ça qui va indiquer finalement l'avenir qui sera le nôtre. Parce qu'autant on peut réussir, autant on peut tout perdre. En un instant, tout peut être perdu. Je discutais il y a quelques jours avec quelqu'un concernant une personne que je connais très bien. Il est dans ma propre famille. Il a tout perdu. Il a travaillé toute sa vie. Il a tout perdu. C'est terrible de tout perdre, non ? Perdre ce qui peut-être a été le fruit de tant et tant de sacrifices et finalement se rendre compte que tous ces sacrifices ont été inutiles ou en tous les cas, ils ont été anéantis. Anéantis par les circonstances, anéantis par les mauvais choix. Matthieu chapitre 16, verset 26, il est écrit « Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Ou que donnera un homme en échange de son âme ?» La richesse de ce monde ne nous permet pas de payer pour sauver notre âme. Le prix est tellement haut que même les plus grands milliardaires, ceux qui ne savent même pas combien ils ont sur le compte, se considéraient si j'avais son compte un jour. Non ? Oui ou non ? Ah, un jour, on boucherait tous les trous. Combien de fois avec mon épouse, au début de notre mariage, on disait « Aujourd'hui, on va boucher quel trou ?» Parce que, on est tous dans les mêmes situations, les mêmes circonstances. On fait face aux réalités de la vie. Et à un certain moment, il a fallu prendre conscience que ce n'était pas ça l'essentiel. L'essentiel n'est pas forcément dans ce qu'on va mettre dans le bas de laine, dans le matelas. Il y a des années de cela, quelqu'un avait caché une fortune, c'est une histoire vraie, une fortune dans un poêle au bois. Et il avait caché cette fortune dans un poêle au bois et il avait dit à ses enfants, ses petits-enfants surtout, ne vendez pas la vieille ferme. Et le jour où ce couple est parti, il a fallu prendre la décision de quoi faire de la vieille ferme Et les jeunes, ils disaient, ah, mais moi, je ne me vois pas. C'est qu'une vieille ferme. Et les uns après les autres, ils se sont dit, on va vendre, on va vendre, on va vendre. Et ils ont vendu pour une bouchée de pain. Et les nouveaux acheteurs, c'était un couple qui ne nageait pas dans l'or, nageait pas dans le bien-être, mais qui avait vu dans cette ferme un potentiel. Il disait, dans cette ferme, il y a quelque chose qui nous inspire, qui nous donne envie, qui nous donne courage. Et ils ont entamé les travaux. Oh, quelle surprise lorsqu'ils ont déplacé le poêle au bois. Ah, on se dirait, mais ça arrive qu'à une personne. Deuxième histoire. Deuxième guerre mondiale. Il y a une très belle demeure. Et le propriétaire, il est inquiet parce qu'il se dit, avec les bombardements, tout va être rasé. Tout va être rasé. Et donc, il s'organise et fait couvrir toute sa demeure avec de la terre. Tout. Et au-dessus, il construit un poulailler. Ça n'attire pas. Ça ne donne pas forcément envie d'acheter le terrain. Et un jour, quelqu'un, finalement, a racheté ce terrain. Et il s'est dit, ben, c'est étrange ce poulailler placé là au milieu du jardin. C'est vraiment étrange. Il dit, on va enlever ce poulailler, on va refaire quelque chose de neuf, quelque chose de propre. Et il commence à creuser. Et plus il creusait, plus l'ancienne bâtisse apparaissait. L'ennemi a tendance, Satan a tendance à couvrir ce que Dieu a fait pour vous et en vous. Et il essaye de le mettre sous la terre, sous le sable, pour que personne ne voie finalement les qualités, les capacités que Dieu a placées dans votre vie. Le but de l'ennemi, c'est de vous transformer, excusez-moi, hein, je m'y inclus, en un poulailler. Quelque chose qui ne donne pas envie. Alors certes, les œufs, on aime bien. Mais ce n'est pas ça qui va forcément nous donner envie d'aller plus loin. Jean-Baptiste, lui, avec sa tenue, pouvait sembler quelqu'un finalement de loin de la réalité, mais regardez ce qu'il dit le psaume 49, versets 7 à 14. Ils ont confiance en leurs biens et ils se félicitent de leur grande richesse. Ils ne peuvent se libérer l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. La libération de leur âme est chère et n'aura jamais lieu. Vivrait-on toujours sans voir le gouffre? Car on le verra. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également et laissent leurs biens à d'autres. Ils s'imaginent que leurs maisons subsisteront toujours et leur demeure de génération en génération, eux qui avaient donné leur nom à des terres. Mais l'homme, qui est en horreur, n'a point de durée, il est semblable aux bêtes qui périssent. Telle est leur voie, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. La réussite, le nom, le fait de laisser une trace pour les générations à venir. Jean avait compris que finalement, ce qu'il avait d'important, c'était le regard de Dieu dans sa vie. D'ailleurs, dans les évangiles, il nous est rapporté comment Jésus parlera de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'était pas quelqu'un qui s'incommodait à vouloir faire des beaux discours politiques. Il disait la réalité. Aimez-vous des discours politiques ou la vérité? Qui aime la vérité? Sûr? Parce que la vérité, parfois, elle est difficile à accepter, mais c'est la vérité. Et dans ce cadre-là, Jean-Baptiste leur disait, venez, confessez vos péchés. Et l'histoire nous dit qu'il y avait parmi ces hommes, ces femmes qui avaient pris conscience de leur situation, il y avait aussi finalement des religieux qui venaient et Jean, il ne va pas par quatre chemins. Il leur dit aux pharisiens, aux sadducéens, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. C'était des religieux. Ça pour dire que la religion ne sauve pas. Ni la religion, ni les actes religieux. Alors on pourrait se dire, mais attendez, une religion, on a une religion, Mais ce n'est pas ça qui va te sauver, hein, mon ami. Il est question finalement pour chacun d'entre nous de faire preuve d'un fruit de repentance devant Dieu, d'avoir bien compris où nous en sommes et d'avoir pris la décision de changer de direction. Alors, les premiers qui ont vu Jean enseigner, Jésus enseigner, ils ont parlé de Jésus comme celui qui avait créé une nouvelle secte. Qu'est-ce qu'une secte ? Si ce n'est quelque chose dans laquelle on nous pousse à rentrer et dans lequel on ne maîtrise plus aucun choix et dont on ne peut plus sortir. La parole de Dieu nous parle du baptême comme un acte de foi et une décision personnelle. Ce n'est pas une question de secte, c'est une question de décision, d'engagement personnel. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous a laissé le libre arbitre, le choix, la décision. Il ne nous y a pas obligé. Et Jésus lui-même, il dit, lui-même, je suis à la porte, je frappe, si quelqu'un entend, ouvre, je rentrerai. Mais s'il garde la porte fermée, jamais Jésus a forcé une porte. Jamais l'évangile a forcé une porte. Jamais la parole de Dieu a forcé une porte. Et la porte auquel Dieu frappe, c'est celle du cœur. C'est là que le Seigneur vient finalement exprimer et manifester son amour et son désir d'avoir une relation personnelle avec nous. D'ailleurs, si vous regardez dans les différents textes, Jésus parlera aux religieux d'une manière assez dure. Étonnant, hein ? Un jour, quelqu'un m'a dit, vous croyez en quelle religion ? Je dis, je ne crois pas dans la religion. Mais vous êtes pasteur. Deux fois plus alors. Je crois en Jésus. Ce n'est pas une religion. C'est exprimer sa foi. C'est finalement vivre sa foi telle que la parole de Dieu l'enseigne. Ce n'est pas une religion. Si quelqu'un ce matin se dit, tiens, je voudrais peut-être changer de religion, je vais vous dire, vous allez changer rien du tout dans votre vie. Parce que ce n'est pas une observance religieuse. C'est une question de connaître, expérimenter finalement le changement que Jésus lui-même produit dans notre cœur. Quand la parole de Dieu nous parle de fruits, ça veut dire qu'il y a une transformation au plus profond. Actes chapitre 20, versets 20 à 21, il dit le texte sans rien dissimuler, « Je vous ai annoncé en vous enseignant publiquement et dans les maisons tout ce que vous était utile en proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu » et la foi en notre Seigneur Jésus. Je vous ai obligé en rien, je n'ai rien dissimulé, j'ai publiquement enseigné. La parole de Dieu n'a pas peur d'être enseignée publiquement. Ce n'est pas dit en cachette. Ce n'est pas quelque chose qui se transmet dans le secret. Non, la parole de Dieu, elle est là. Et si quelqu'un ce matin n'a pas de Bible, on serait heureux de vous en offrir une. Vous entendez ? Offrir. Offrir, parce que c'est le plus beau des cadeaux, parce que c'est la chose la plus importante dont nous avons besoin. Alors de quel fruit faut-il apporter au Seigneur ? Romains 6, versets 22-23, il dira « Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. » Notre Seigneur, libéré du péché, libéré des entraves, libéré de ceux qui finalement ils nous retenaient à l'ancienne vie. Et hier, on était en déplacement à Draguignan pour une inauguration de locaux d'une église. Ils ont terminé les travaux après 7 ans de travaux. Quel bonheur, quelle joie pour eux finalement de dire, voilà, la dernière pierre a été installée, on va inaugurer. Et là, il y avait un frère que je connais bien et qui évangélisait, il a donné une image qui m'a parlé. Et il donnait cette image, celle d'un sac à poubelle. Et il disait, c'est ce que Satan voudrait faire de la vie de chacun, un sac à poubelle où mettre les ordures. Parce que les péchés dans la vie de quelqu'un, ce n'est que des ordures. Mais Dieu ne nous a pas appelés à être des sacs à poubelle. Dieu nous a appelés à être la pupille de ses yeux, parce qu'aux yeux de Dieu, nous avons de la valeur. Galates chapitre 5, verset 22, il dit « Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. C'est un fruit. Et vous savez, il n'y a pas de fruit s'il n'y a pas l'arbre. Et on a besoin que cet arbre soit Christ dans notre vie. Une autre forme de fruit qui doit être présent dans la vie de chacun, Éphésiens chapitre 5, versets 8 et 9. « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » C'est une transformation. Il y a un avant, il y a un après. Il y a ceux qu'on a pu connaître des personnes avant leur conversion, avant de rencontrer Jésus. Il y a ceux que Jésus a fait dans leur vie au point que c'est devenu quelque chose d'évident. Il dit « afin de porter un fruit de la lumière ». Être quelqu'un d'autre, quelqu'un de rayonnant, quelqu'un qui vit sa foi autrement et qui n'a plus besoin de ce que le monde offre pour être heureux. Vous savez, parfois, on pense que la joie, c'est dans le plaisir, c'est dans les fêtes. Un matin, c'était un dimanche matin, j'étais en train de promener mon chien et je rencontre un garçon qui devait avoir à peu près 16 ans. Il était complètement égaré. Et je vois ce garçon arriver en tous ses états envers moi. Il me dit « Je suis où ?»« Sur la terre. » Je dis « Tu viens d'où ?» Alors je ne vais pas te dire le nom de la ville, parce que ça ne change rien. Et je dis « Mais t'as quel âge ?»« 16 ans. » Je dis « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il dit « Je suis allé à la fête du vin. » Et je ne sais pas comment je me suis retrouvé à dormir dans les champs. Il dit, je ne sais pas où je suis perdu. Je dis, tu te rappelles du numéro de téléphone de tes parents ? Oui. Alors donne-moi ton numéro. J'appelle la maman, je dis, madame, vous inquiétez pas. Il va bien. Il a besoin d'une douche, d'une bonne dose de café pour le faire sortir de son état, mais il va bien. Et sa maman, elle m'a dit, mais il me faut au moins une demi-heure pour venir le chercher. Comment il est arrivé là, 16 ans. Et hier, dans ce que ce pasteur partageait, sa fille, elle travaille dans un hôpital. Elle nous disait qu'il y a eu des enfants de 8 ans qui ont été amenés à l'hôpital pour tentative de suicide. Ça pour vous dire que notre pays, notre nation, notre monde va mal. Et ce n'est pas la fête qui va changer quoi que ce soit. Parce que lorsqu'on sort de la fête, la réalité, elle est toujours là. Les problèmes sont toujours là. Les difficultés sont toujours là. Alors il est question finalement de faire un choix. Faire le choix de marcher avec Dieu. Philippiens chapitre 1, versets 9 à 11, il dit « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. » Qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous transformer comme ça pour que nous puissions, le jour où le Seigneur viendra, le jour où nous nous présenterons devant Dieu, être finalement pas accueillis comme quelqu'un qui va devoir passer son éternité dans les souffrances parce qu'il a fait les mauvais choix, mais comme quelqu'un qui entre dans la présence de Dieu et qui va vivre cette éternité avec Dieu dans sa gloire. Alors Jean dira, moi je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Et il dit, il a son vin à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors quelqu'un pourrait se dire, et la fin c'est pour quand ? Quand j'étais très jeune, je me disais, folie, hein ? Je vais faire ce que je veux, et quand je sens que le Seigneur revient, hein ? Ah ben hop ! Je me mets sur le droit chemin. Comme si finalement, c'était juste une question de changer de tenue. Et en réalité, un jour, Dieu m'a ouvert les yeux. C'est lui qui m'a fait comprendre que le chemin que je prenais allait véritablement à la mort, pas seulement spirituel, mais aussi physique. Et ce jour-là, c'est le Seigneur qui a interpellé mon cœur. Et je me suis dit, moi, je ne peux pas attendre demain. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Je voudrais vous dire, on souhaite tout le monde une longue vie. Mais qui sait quelle est la dimension de notre vie? Qui sait quel est le moment où on se présentera devant Dieu? Alors, j'aimerais juste, pour terminer, vous lire ce texte de l'Évangile de Luc, puisqu'il est question de savoir quand. Moi, je voudrais plutôt vous dire, soyez interpellés par le comment, plus que le quand. Luc, chapitre 17, à partir du verset 20, qui dit « Interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là, car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas et n'y croyez pas. En effet, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en ce jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fils et les fit tous périr. Il en sera au temps de Lot, de même qu'au temps de Lot, les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse et qui aura ses affaires dans la main ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la trouvera. Je vous le dis en vérité, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. La grande question, c'est pas quand, mais comment. Et cela, la réponse, c'est vous qui l'avez. Parce que l'engagement est personnel. Parce que la conversion est personnelle. J'aimerais juste vous inviter à fermer vos yeux. Et ce matin, si quelqu'un est dans cette recherche d'établir sa relation personnelle avec Dieu, si quelqu'un ce matin comprend, saisit pleinement l'enjeu qui est devant lui, la responsabilité qui lui incombe de faire le choix de donner son cœur au Seigneur, je voulais tout simplement vous inviter à demander à Jésus de rentrer dans votre cœur et de venir vous sauver, de venir vous pardonner. Il est allé à la croix pour chacun de nous. Il a accompli au prix de sa vie un sacrifice qu'aucun de nous aurait pu accomplir. Il l'a fait parce que lui, il n'avait commis aucun péché. Et à cause de sa pureté, à cause de sa bonté, à cause de son amour, le prix était le seul prix qui était possible de payer pour le pardon des hommes. Et il a accepté de le payer pour nous tous. Alors si quelqu'un ce matin voulait accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, faites-le simplement en répétant cette simple prière dans votre cœur. Père Céleste, je viens à toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes manquements. Je me suis égaré. Je suis un pécheur. Et j'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin d'être pardonné. Accorde-moi ton secours. Accorde-moi ton pardon. Accorde-moi ta grâce pour que ce matin même, je passe de la mort à la vie, pour que en ce jour même, le péché n'ait plus de place dans ma vie, mais renouvelé, sanctifié, purifié par le sacrifice que tu as accompli à la croix, je devienne ton enfant, sauvé par grâce. Père céleste, je te donne ma vie et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Amen.